Alors, j'ai pris un certain nombre d'extraits, disons, de numéros du catéchisme de l'Église catholique qui parlent de la Vierge Marie. Il y en a d'autres, vous pourrez éventuellement aller chercher et qu'on puisse les méditer ensemble, parce que je crois que c'est à travers aussi le magistère de l'Église, c'est-à-dire la parole que nous donne l'Église, que l'on peut découvrir aussi le mieux ce qu'est ce mystère de la Vierge Marie. Et j'aimerais, donc le premier paragraphe c'est Marie, mère du Christ, mère de l'Église, mais j'aimerais peut-être commencer par le paragraphe suivant, la maternité de Marie envers l'Église. La maternité de Marie envers l'Église, tous unis à son Fils. Le rôle de Marie envers l'Église est inséparable de son union au Christ. Elle en découle directement. Cette union de Marie avec son Fils dans l'œuvre du salut est manifeste dès l'heure de sa conception virginale du Christ jusqu'à sa mort. Elle est particulièrement manifeste à l'heure de sa passion. Bien, je trouve que la maternité de Marie, vous savez peut-être que quand on étudie la théologie, et singulièrement la théologie mariale, il y a quelques dogmes de vérité de foi auxquels nous croyons, nous, comme catholiques, et que l'on partage aussi avec les orthodoxes, du reste, qui concernent la Vierge Marie. Mais la première vérité de foi qui concerne la Vierge Marie, c'est sa maternité divine. Tout vient de la maternité divine de Marie. Tout vient du fait qu'elle soit mère de Dieu, qu'elle soit non seulement mère du Christ, mais mère de Dieu. Et ça a été défini au Concile d'Éphèse. Et je crois que c'est important de dire, au fond, pour comprendre le mystère de Marie, c'est aussi le comprendre sous la lumière d'une fécondité. Au fond, c'est la fécondité qui éclaire le mystère de la Vierge Marie. Elle est là pour mettre au monde l'enfant Dieu, lui donner sa nature humaine. Et tout ce qu'elle reçoit de grâce est orienté à cette maternité divine. Que ce soit l'Immaculée Conception, parce qu'elle a été préparée d'avance pour recevoir le Verbe fait chair, que ce soit l'Assomption que l'on médite actuellement, voilà, c'est les mystères, le couronnement aussi de la Vierge Marie, ce sont des mystères qui, nous, au fond, viennent de sa fécondité que tout est orienté, tout est unifié vers ce désir de donner Dieu fait chair. Et je crois que c'est important pour nous aussi que nous puissions méditer là-dessus dans notre vie. Où est-ce qu'on en est de la fécondité de notre vie? Parce qu'on ne se pose pas toujours cette question. Est-ce qu'au fond, le fait de porter du fruit et un fruit qui demeure est l'essentiel de notre vie ou c'est quelque chose qui est de l'ordre de l'accessoire et on met d'autres priorités, que ce soit le succès, que ce soit un certain perfectionnisme, que ce soit le regard des autres. Est-ce qu'au fond, le fait de porter du fruit et un fruit qui demeure est vraiment cet appel que le Seigneur nous lance pour que nous puissions être à l'image de Marie et nous aussi être féconds? Marie rappelle, et en Marie, ça rappelle à chaque personne humaine une réalité qui est pour tous. Nous sommes faits pour une fécondité, fécondité spirituelle, fécondité charnelle, et c'est au fond ça qui oriente notre vie. « Je vous ai choisi, dit Jésus, pour que vous alliez, pour que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure. » Et de ce point de vue-là, je trouve que quelque part, entre les orientaux, c'est-à-dire avec les orthodoxes, ou entre les latins, c'est-à-dire nous, l'Église latine, évidemment même les chiens veulent rentrer, c'est magnifique. Il y a une différence de ce point de vue-là. Par exemple, au niveau des sacrements, les latins sont assez orientés vers la validité du sacrement. Est-ce que c'est un sacrement valide? Parce que nous sommes, nous, les héritiers aussi du droit romain. Alors que les orthodoxes, les orientaux, sont beaucoup plus orientés vers la fructuosité, c'est-à-dire la fécondité du sacrement. Est-ce que ce sacrement-là portera du fruit? On y voit plusieurs traces, par exemple, dans l'Orient chrétien, que ce soit à travers le fait que les sacrements de l'initiation chrétienne, c'est-à-dire le baptême, la confirmation et la communion dans l'Orient se reçoivent tous ensemble dès le début, comme pour dire voilà, on va, il faut la totalité des sacrements d'initiation chrétienne pour que vraiment porter un fruit, et un fruit qui demeure. Mais aussi dans l'Eucharistie, c'est assez intéressant de voir que les Orientaux, nous on est très attachés à la présence réelle de l'Eucharistie, et même il y a parfois à quel moment y a-t-il exactement présence réelle, à quel moment il n'y a pas, bon. Et les Orientaux, eux, ils sont plus attachés, par exemple, il n'y a présence réelle que vers la fin de la célébration, lorsque on invoque l'Esprit Saint sur l'Assemblée, et qu'au fond, cette présence, cette communion va appeler aussi la communion entre les fidèles. Vous voyez, c'est que, quelque part, je trouve ça assez riche, et les deux sont riches comme tradition spirituelle, l'Orient et l'Occident, c'est que l'Orient est assez attaché justement à la finalité, quelque part, est plus globale, englobant. Et il n'y a vraiment de présence réelle que quand la communion des fidèles sera là. En tout cas, on va demander au Saint-Esprit que cette communion des fidèles soit suscité par la communion eucharistique. Donc je vous dis ça parce que on perd vite de vue la fécondité dans notre vie. On perd vite de vue. On perd vite de vue parce qu'on la remplace par l'efficacité, parce qu'on la remplace par des tas d'autres choses, mais qui ne sont pas vraiment ce que le Seigneur veut. Et quand on contemple Marie, eh bien on contemple celle dont tout est orienté à la fécondité. Et non seulement la fécondité évidemment la maternité divine, mais envers l'Église. C'est-à-dire que Marie continue d'être mère à travers son ministère et son union au Christ. Elle continue de nous, par son intercession, par sa prière, elle continue là aussi de nous donner vraiment le Christ lui-même, en tout cas de nous aider à être comme Église inséparable de son union au Christ. Hein. Donc je crois que c'est bien de rappeler ça, de se redire et de reparler justement de la maternité divine de Marie. Le catéchisme continue en disant « La bienheureuse Vierge avança dans son pèlerinage de foi, gardant fidèlement l'union avec son Fils jusqu'à la croix, où, non sans un dessein divin, elle était debout, souffrant cruellement avec son Fils unique, associée d'un cœur maternel à son sacrifice, donnant à l'immolation de la victime née de sa chair le consentement de son amour pour être enfin par le même Christ, Jésus, mourant sur la croix, donné comme sa mère aux disciples par ces mots, « Femme, voici ton fils. » Eh bien, il y a une autre fécondité, bien sûr au début de la vie du Christ, en donnant au Christ son humanité, hein, mais aussi à la fin de la vie terrestre, en tout cas de la vie du Christ, par la croix. Et je crois aussi que Marie, de ce point de vue-là, elle nous aide à découvrir que la croix peut être féconde, que la croix peut porter du fruit. Elle se tient là, au pied de la croix, elle unit son sacrifice maternel avec son cœur maternel, dit le catéchisme, elle unit à son sacrifice au sacrifice du Christ. Et en unissant, au fond, son amour à l'amour du Christ, en unissant son sacrifice de mère et de son cœur maternel au sacrifice sanglant du Christ, eh bien, elle nous donne aussi une fécondité et elle nous permet de tenir, nous aussi, face à la croix. Et je pense que, pour nous, c'est important de nous rappeler de cet épisode de façon particulière dans notre vie. Parce que, bien souvent, on a tendance à éliminer la croix. C'est le pape Benoît XVI qui, dans son encyclique sur l'espérance, dit à un moment donné « Peut-être on pourrait vivre sans souffrance, peut-être. » Justement, il parle de la souffrance et de l'espérance. Ce serait peut-être possible. Peut-être on pourrait arriver à éliminer toute forme de souffrance, etc. Mais il se pose la question « Quel serait alors le sens de la vie ?» Quel serait alors le sens de la vie ? Et je trouve ça assez beau que le Saint-Père, justement, relie au fond la croix à l'espérance, parce qu'il dit « Si celui qui met de côté la croix du Christ, il met de côté aussi l'espérance que le Christ nous apporte d'être victorieux par sa croix, dans son amour, et justement victorieux dans notre vie. » Et je trouve de ce côté-là, c'est important que Marie, elle est féconde aussi par sa participation au sacrifice de Jésus, parce que justement, elle nous dit, quand tu as quelque chose de difficile à apporter dans ta vie, au plan physique, au plan spirituel, au plan familial, au plan professionnel, et chacun d'entre nous a sa part aussi de souffrance, chacun d'entre nous a connaît peut-être ses difficultés, même s'il y a des vies qui sont plus éprouvées que d'autres. Mais quand tu as quelque chose à apporter, rappelle-toi aussi que ce que tu as apporté est orienté à la fécondité. Rappelle-toi que ce que tu portes est comme participation à la souffrance du Christ, est ordonnée et confiée à Marie pour pouvoir porter un fruit, et un fruit qui demeure. Et je trouve ça très beau de voir que, au fond, ce consentement de son amour, hein, elle a donné ce consentement. Et à l'image de Jésus, justement, elle donne ce consentement. Et nous-mêmes, nous avons, quand nous prions justement la Vierge Marie, nous lui demandons aussi ce consentement. Nous lui demandons cet accueil. Nous lui demandons cette simple disponibilité, on peut dire, face à la grâce. Hein, de pas nous raidir, de pas nous, même si on le sait bien, nos cœurs sont souvent divisés, hein, et que l'accueil de la croix de Jésus n'est pas sans provoquer en nous de rébellion, de souffrance ou de révolte parfois, hein, et on le sait bien, c'est dans notre cœur. Mais au fond, quand je contemple Marie, ben je lui demande que d'avoir son consentement, de rentrer dans son accueil de la croix du Christ pour pouvoir vraiment aussi, à ma manière, porter du fruit en offrant cette croix. Hein, je me souviens de cette jeune qui, très éprouvée dans sa santé, par exemple, et à qui l'on a dit, et elle ne l'avait jamais entendue, à qui l'on a dit, est-ce que tu sais que tu peux offrir ce que tu portes? Tu peux l'offrir pour d'autres. Est-ce que tu le sais? Et son visage s'est comme illuminé parce qu'elle a découvert, au fond, à travers cette capacité d'offrir les souffrances qu'elle portait dans son corps, elle a découvert une fécondité, et à travers la fécondité, elle a découvert un sens. Et je crois qu'aujourd'hui, ce qui vraiment nous guette, c'est cette perte de l'espérance chrétienne. Cette perte de l'espérance chrétienne de découvrir dans ce qui peut paraître le plus absurde dans notre vie, de découvrir une part de mystère. Qu'il y a là quelque chose qui tient du mystère de Dieu. Et au fond, notre vie, elle oscille entre absurde et mystère. Est-ce que ce que nous vivons n'a pas de sens? Est-ce que cette vie n'a pas de sens? Est-ce que donc ces bâtiments magnifiques, etc., au fond, ne sont qu'un amas de pierres? Ou est-ce qu'on découvre aussi, même dans la difficulté, dans ce qui peut paraître le plus choquant dans notre vie, dans l'expérience du mal et du péché, est-ce qu'on découvre un sens parce qu'on a découvert que Jésus lui-même venait là et semait une semence de vie, rendait fécond par la prière de Marie ce moment-là que nous vivions. Chacun, nous devons nous interroger là-dessus. Je pense que personne ne... Et le cheminement, c'est un cheminement spirituel, ce n'est pas automatique, hein, ce n'est pas parce que il y a parfois des difficultés, des participations à la croix du Christ qui sont particulièrement difficiles à porter. Mais que nous puissions, au moins comme chrétiens, être témoins d'une espérance. Et Marie, en étant présente, justement, à ce moment-là, elle est témoin d'une espérance. Elle est témoin de l'espérance qui habite, hein, que Jésus veut nous donner. Alors oui, demandons à Marie que vraiment elle nous associe, hein, et qu'elle nous soutienne aussi dans cette participation à la croix de Jésus. Ensuite, il y a le numéro d'après qui dit « Après l'ascension de son fils, Marie a assisté de ses prières à l'église naissante. Réunie avec les apôtres et quelques femmes, on voit Marie appelant elle aussi de ses prières le don de l'Esprit qui, à l'Annonciation, l'avait déjà elle-même pris sous son ombre. » Voilà. On sent cette union, hein, de Marie avec l'Église. Hein, si le Christ et l'Église, c'est tout un, hein, disait Jeanne d'Arc, on peut dire aussi, sans aller trop loin, on peut dire que Marie et l'Église, c'est tout un. Et que parce que la Vierge Marie, elle a participé dans l'espérance à l'offrande du Christ, parce qu'elle a donné cette humanité au Christ, elle donne aussi à l'Église cette participation, on le verra aussi, à la gloire. Mais elle a un rôle à jouer, elle a quelque chose à faire dans notre vie quotidienne. Et comme c'est important que nous puissions dire justement, assister de ces prières, l'Église naissante. L'Église est encore naissante. Nous sommes encore d'une certaine manière en fondation. L'Église est toujours naissante parce que l'Église va de naissance en naissance, elle va de commencement en commencement. Alors bien sûr qu'elle a une expérience, mais parce qu'elle vit du Saint-Esprit, parce qu'elle reçoit le Saint-Esprit, ben il y a toujours quelque chose de nouveau. Qu'est-ce que veut pour le Saint-Esprit pour notre Église dans notre temps? Mais c'est quelque chose de nouveau à inventer. Donc, qui dit nouveau dit naissance. Donc, forcément, il y aura demandé l'intercession de la Vierge Marie. Forcément, la Vierge Marie sera là aussi pour assister de ses prières l'Église naissante. Hein, non seulement au moment des actes des apôtres, mais encore aujourd'hui. Et là aussi, je crois que c'est important, parce qu'on peut perdre confiance dans ce que le monde attend de l'Église. On peut peut-être dire ça. Parfois, on peut perdre confiance, mais au fond, en tout cas en Occident, en Occident ici, en Europe spécialement, on dit, mais au fond, les gens n'attendent plus rien. Ils ne croient plus en rien. Et puis l'Église, pour eux, ça a plus. Je voyais un père de famille, de plus de 80 ans, qui a enterré son fils d'une cinquantaine d'années. Et en larmes devant moi, il me dit « Mon fils s'est fait enterrer sans croix sur le cercueil, sans célébration. » Simplement, voilà, on a été tous au crématorium et on a répandu les cendres dans la mer, c'est tout. Et lui, pourtant, il me dit « Moi, je ne suis pas un pratiquant, je ne suis pas un grand chrétien, je ne suis pas... » Mais voilà. Et parfois, on peut se dire « Mais les gens, au fond, n'attendent plus rien. Les gens n'attendent plus rien. » C'est faux. Je crois qu'au contraire, les temps sont favorables. Les temps sont favorables, beaucoup plus qu'on ne le croit. Et l'Église est beaucoup plus attendue qu'on ne le croit de la part de la société, parce que justement, on arrive à une forme d'épuisement du matérialisme, de cette accumulation de richesses, de cette religion de l'argent. Hein, on voit bien avec toute la crise financière, on voit bien que c'est le fruit de la rapacité des hommes. C'est le fruit de l'amour de l'argent. Et on voit, alors c'est un petit peu tangent, parce qu'il n'y a pas forcément une expression religieuse. Ça peut être une expression spirituelle sans être religieuse de la part d'un certain nombre. Ou d'autres qui se tournent parfois vers des sectes ou vers ou des sortes de spiritisme ou de voilà, on voit des mais il y a dans le cœur de l'homme, et nous le savons, cette trace que le Seigneur a laissée au moment de nous créer, nous sommes faits pour Dieu, et notre cœur n'a de repos tant qu'il ne repose en toi, dit saint Augustin. Et ça veut dire que au fond, en ce moment même, la Vierge Marie, elle travaille le cœur du monde. C'est important de ne pas voir le monde comme un ennemi. Il peut y avoir cette tentation de voir le monde comme un ennemi. On sent bien, parce que comme on sent des raidissements, même dans l'Église catholique, on sent des raidissements identitaires. On sent, parce que la foi, on se dit, tout fout le camp, voilà, c'est plus comme avant, puis maintenant, même le mariage, ça fout le camp, tout le monde peut se marier, voilà, on sent, parce qu'on est à une étape, on peut dire, à une sorte d'étape un peu de charnière dans l'histoire de l'humanité, il y en a quelques-unes, on pourrait y comparer aussi la période de la Renaissance, mais on est dans une étape charnière où il y a un monde qui s'en va, qui va par derrière nous, mais l'autre qui advient n'est pas encore là. Je veux dire, cette manière, cet autre monde, ne serait-ce que par les moyens de communication. On n'a pas du tout idée de la transformation que, par exemple, les moyens numériques et la communication numérique engendrent dans le cœur des nouvelles générations. Il n'y a pas que des nouvelles, du reste. On est à l'époque de Gutenberg, si on veut prendre un parallèle. L'invention de l'imprimerie. On est à cette même période. Et donc, du coup, comme c'est des périodes charnières, etc., c'est des périodes de peur. C'est des périodes de peur. Il peut y avoir dans l'Église une forme de peur aussi par rapport au monde et à la société civile. Et donc de nous recentrer, de nous recroqueviller, et de dire voilà, nous sommes les justes ici, nous sommes au milieu, dehors c'est les pécheurs. Et ça, c'est pas du tout comme ça que le magistère, en tout cas de l'Église, ni la parole de Dieu, nous invite à considérer le monde. Oui, le péché dans le monde, comme il est aussi en chacun d'entre nous. Mais comme il est important de voir que Marie, elle est présente dans cette Église naissante d'aujourd'hui, de 2013, elle est présente comme une source d'espérance. Et j'aime bien cette phrase de saint Augustin, justement, où les gens déjà, saint Augustin, c'est 4e, 5e siècle, et les gens se plaignaient avant. Ah, les jeunes, ils étaient bien, ils se levaient, j'allais dire, pour laisser les places dans les autobus, même s'il n'y a pas beaucoup d'autobus au 3e siècle. Mais bon, toujours est-il que avant c'était mieux. Vous voyez, avant c'était mieux. Et le grand saint Augustin a cette parole extraordinaire. Il dit « Soyez saints et les temps seront saints, soyez bons et les temps seront bons. » Ce n'est pas dans un repli identitaire, dans une peur au fond de l'avenir et une peur du monde que l'Église naissante d'aujourd'hui va pouvoir donner le Christ que le monde attend. Et que, parce que justement, nous ne sommes plus fidèles à cette dimension mariale. De présence à une Église qui est l'Église d'aujourd'hui, d'une présence à une Église qui chemine dans le temps et dans l'histoire. Donc, je trouve que, à travers justement de méditer la maternité de Marie sur l'Église, ça nous donne une espérance formidable. Quelque part, il est bien plus facile de croire aujourd'hui qu'au moment des Actes des Apôtres. Il est bien plus facile de croire aujourd'hui. Nous avons beaucoup plus de quoi appuyer notre foi, que ce soit par le témoignage des saints. Hier, on fêtait le père Maximilien Kolb comme martyr, que ce soit par le travail des théologiens, le travail des spirituels, des siècles de prière. Il est plus facile de croire. Et pourtant, la peur qui habitait le cœur des apôtres, aussi nous habite. Et il nous faut Marie qui nous aide à ouvrir notre cœur pour ne pas rentrer dans cette peur-là. Alors la peur qui ensuite se tourne vers l'étranger, vers celui qui vit différemment. On voit bien des crispations. Il y a c'est René Girard. Je ne sais pas si vous connaissez René Girard, un philosophe. René Girard, il dit, faut faire attention à ceux qui crispent les peurs. Tous ceux sur qui on concentre nos peurs. Il suffit de prononcer le mot de musulman, alors tout de suite il y a des tas de fantasmes en nous. Il suffit de prononcer le mot de Rome, de gens du voyage, etc. Tout de suite il y a des peurs qui sont en nous. Mais ça, c'est pas de Dieu. Ça, c'est pas de Dieu. De prendre l'autre comme celui qui, au fond, va crisper nos peurs. Au contraire, je trouve que l'Église naissante, c'est une Église naissante au monde. Et Marie, elle est présente à cette Église naissante qui va se répandre dans le monde. Et je trouve que le pape François, de ce point de vue-là, nous encourage beaucoup. Il nous encourage beaucoup. Il dit, attention, restez pas dans l'entre-soi. Il faut pas rester dans le... Allez aux frontières. Il aime beaucoup cette expression de frontières existentielles. Quand on dit de frontières existentielles, c'est de ceux qui se pensent loin de Dieu, de ceux qui pensent, qui font pas tout bien comme tout le monde. Et on reconnaît le jésuite. Les jésuites ont été créés justement pour aller dans les lieux frontières, là où il y a au niveau de l'humanité une frontière, là où on arrive à quelque chose où le christianisme n'est pas encore arrivé, en tout cas pas à transformer la société. De ce point de vue-là, je trouve que Marie, présente à l'Église, elle est une grande source d'espérance. Elle est aujourd'hui présente à nos communautés paroissiales, par exemple. C'est vrai que ce n'est pas facile de vivre dans nos communautés paroissiales qui sont très pauvres. particulièrement en milieu rural, nos communautés religieuses aussi qui sont pauvres. Je veux dire, notre église en France est une église de pauvres. On n'a pas du tout les moyens humains, matériels que l'on pouvait y avoir, ne serait-ce qu'il y a 30 ou 40 ans. Mais en même temps, ce n'est pas parce que c'est une église de pauvres que c'est une église de désespérés. Et ça, je crois que c'est très important de faire la différence. Et Marie, elle est là comme justement témoin de l'espérance. Témoin de l'espérance en étant présente à l'église naissante. Et puis aussi, le catéchisme continue à méditer. Ça va jusque-là? C'est bon, ça va, vous comprenez ce que je dis?